Donc ici, on est à la Générale, on est sur la séance du séminaire du mardi du 28 janvier 2025. Et donc avant de prendre le micro, on a évoqué informellement tout un ensemble culturel, la culture de la formation des grandes écoles, des universités, des instituts de recherche qui sont sur le plateau de Saclay, à l'aide de divers documents graphiques qui en sont directement ramenés. Donc on a pu voir tout un imaginaire très lié à la fois sur des questions d'écologie qui sont omniprésentes sur les couvertures et des questions technologiques d'IA. La question du management étant devenue finalement relativement marginale. Donc c'est les grands enjeux de société sont évidemment discutés là-bas au plus haut niveau, mais selon une certaine optique qui est très, quand même très proche d'un imaginaire d'ingénieur techniciste. Et peut-être il y a des gens ici dans l'assistance qui pourront témoigner de cet univers, hein, venant des grandes écoles du plateau ou d'autres grandes écoles. Toi, tu étais enseignant ou tu es encore enseignant dans... Voilà. À Télécom. Ah ben voilà, très bien. Donc le monde est petit. Vous aurez la parole très bientôt. Mais donc il faut savoir comment on en est arrivé là. Et donc moi je vais céder la parole à notre invitée d'aujourd'hui, Emilia Robin. Tu es donc historienne. Tu as fait, je crois, une thèse ou des travaux liés à des archives des années 70. Peut-être pour toucher quelques mots rapides, parce que je pense qu'il y a un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mais globalement, depuis quelques années, tu es souvent cité en référence sur l'histoire du plateau de Saclay. Peut-être qu'il y avait un manque, d'ailleurs aussi, un manque à combler sur une documentation, disons, à l'échelle de ce territoire. D'ailleurs, il faudra qu'on rappelle quel est ce territoire. Je vais te laisser faire cela, en fait, hein, puisque j'imagine que tout est prévu dans les slides. Alors, tu es affilié à une institution de recherche liée à Sorbonne, mais laquelle Sorbonne? Il y a plusieurs universités qui utilisent... Moi, je dirais Paris 1, vu le logo.
Justement, non. C'était Paris 4 et Paris 1, et maintenant, c'est Sorbonne Université, je crois. Mais comme c'est une UMR, c'est un peu tout le monde aussi.
D'accord.
Je rallume.
Voilà, je ne reconnais pas le logo de Sorbonne Université, mais peu importe. Voilà, c'est quelque part à la Sorbonne, un laboratoire qui parle d'identité, de relations internationales et de civilisation de l'Europe. Voilà, donc bienvenue à la Générale, et je pense que tu peux présenter, tu en as besoin de combien de temps pour nous présenter ça?
Je vais essayer de ne pas traîner. je pense, je vais essayer de faire 35-40 minutes, me faire des signes ostensibles, voilà. Si jamais je suis en train de traîner un peu, ou si on est dans du déjà connu ou quoi que ce soit. Ne pas hésiter, sans horloge sous les yeux.
Alors,
je suis partie jusqu'à...
Voilà, donc je te cède la parole dans une minute. Pendant ce temps-là, la soupe est mise à cuire. Ensuite, il y a une période de questions. Donc pendant l'exposé de Emilia, vous pouvez poser des questions de clarification brèves sur des points techniques. Les vraies questions profondes sont à réserver entre vous et à poser par la suite. OK? Voilà, donc tu as la parole.
Merci beaucoup, Emmanuel. Au niveau son, ça passe sans aucun problème? On est bon, OK. Bon, déjà, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, et donc maintenant, je commence à avoir des résultats et j'ai envie de les partager. Alors, quel est mon parcours? À la base, je suis spécialiste de relations internationales. J'ai fait ma thèse il y a maintenant 15 ans sur la guerre froide. Et les hasards des recrutements ou des non-recrutements m'ont amené à avoir différentes fonctions. En particulier, j'ai été chargée de recherche à l'Institut Pompidou, qui travaille sur Pompidou comme président et premier ministre. Et donc, étant spécialiste des années 50, j'ai élargi mes horizons à la France années 50, 60, 70. Et donc, comment on choisit un sujet de recherche? Parce que moi, à la base, c'est la politique extérieure de l'URSS. Donc, on est vraiment très loin de Saclay. En fait, ça a été un hasard. On m'a demandé, comme je travaillais à Pompidou, un article sur le déménagement de Polytechnique sur le plateau de Saclay. Et pourquoi pas, ça avait l'air sympa, je m'attendais à écrire une petite histoire pittoresque, vaguement nostalgico-pittoresque. Et en fait, là, j'ai rien compris. Parce que j'habitais le coin depuis quelques années, je travaillais à l'époque comme chargée de communication à l'université, et en étudiant cette histoire de l'arrivée de Polytechnique, je suis tombée sur des documents qui me montraient un projet Paris-Saclay, deux fois plus gros que l'actuel Paris-Saclay, mais qui datait de 67, 70, 72. Et là, je ne comprenais rien. C'était quoi ? Est-ce que c'était vraiment sérieux ? Est-ce que ça avait eu des conséquences ? Quel rapport avec l'actuel Paris-Saclay ? Et en me documentant, j'ai réalisé qu'il y avait une sorte d'énorme trou historiographique, donc dans l'histoire qui avait été faite, sur cette préhistoire de l'actuel plateau de Saclay. Et comme dans l'âme, j'étais chercheuse plus que chargée de com, j'ai décidé de revenir à la recherche. Et donc, je suis désormais historienne indépendante. Et ma spécialité, donc, depuis 5 ans, c'est de comprendre l'arrivée de la science dans l'espace Orsay-Saclay. Et également, et surtout plutôt, c'est de comprendre l'interaction entre l'arrivée de la science et le territoire. Comment est-ce que l'arrivée de la science a transformé le territoire et comment le territoire a réagi à l'arrivée de la science ? Quelle était l'interaction entre les deux et quelles conséquences ça a pu avoir ? Donc, moi, je m'intéresse à première décennie, donc entre 45 et 80, un peu de choses près, donc la première grande phase où la science est arrivée dans cet espace. Et la suite, je la connais moins. En particulier, je préviens tout de suite, je ne suis absolument pas spécialiste des différentes structures Paris-Saclay actuelles et des différentes étapes de législation, de plans, de lois programmatiques, etc. Donc, je ne suis pas la spécialiste de la période contemporaine. Mais par contre, dans l'histoire, dans le passé, il y a beaucoup de liens et de similitudes de projets entre ce qui se passe actuellement et ce qui avait été rêvé il y a 60 ans. Je peux donc passer à la slide 2. Donc, avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, et même en réalité pour tout le monde, quand on dit Paris-Saclay, de quoi on parle ? Donc on parle d'un espace géographique qui se trouve au sud-ouest de Paris. Concrètement, le plateau de Saclay, donc il y a des cartes, j'espère que vous avez accès au PDF pour pouvoir suivre. Donc le plateau de Saclay, c'est un plateau qui se trouve à peu près à 160 mètres d'altitude, délimité au nord et au sud, enfin à l'est et au sud, par deux rivières, la Bièvre et l'Yvette, qui ont creusé des vallées assez profondes, ce qui fait que le plateau est une sorte d'éperon, un peu une sorte d'île, essentiellement agricole, et qui descend en pente un peu plus douce côté ouest. Et donc on a cet espace qui est le plateau de Saclay, c'est une zone géographique. Diapo suivante, c'est aussi quand on dit Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est une communauté d'agglomération qui apparaît là en jaune clair, qui recouvre seulement la partie est du plateau de Saclay. La partie ouest, c'est Montigny-le-Bretonneux, Saint-Quentin-en-Yvelines, etc. Donc la communauté d'agglomération Paris-Saclay couvre une partie du plateau de Saclay, mais s'étend également à d'autres communes qui ne relèvent pas du plateau de Saclay. Paris-Saclay, donc, c'est une communauté d'agglomération qui existe depuis une dizaine d'années, quand il y a une réforme avec des regroupements d'agglomérations en grandes communautés d'agglomération. Paris-Saclay, c'est également une université, l'université Paris-Saclay, qui vient du regroupement de l'université Paris-Sud, plusieurs grandes écoles, plusieurs instituts de recherche comme le CEA, le CNRS, INRAE, et sont associés à ce pôle centré sur l'espace Orsay-Saclay, l'université d'Évry, l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc Saint-Quentin-en-Yvelines à l'ouest, Évry au sud-est, et puis j'ai fait figurer, donc c'est ce qui se trouve en prune, parce que c'est le terme consacré pour la couleur de Paris-Saclay, ne pas oublier les implantations de la fac de Sceaux et différents IUT à différents endroits dans cet espace. En dehors de l'espace Paris-Saclay, mais dans le sud-ouest parisien. Donc, communauté d'agglomération, université, et troisièmement, Paris-Saclay, c'est aussi l'établissement public d'aménagement, le PA, Paris-Saclay, dont le périmètre indiqué ici est en fait plus grand. Il a été modifié en 2014, donc ça c'est le premier périmètre, maintenant il a été réduit un petit peu. Et donc l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay a pour objectif, comme son nom l'indique, de coordonner, porter, financer, organiser l'organisation de cet espace pour améliorer sa compétitivité autour de l'idée d'un pôle d'innovation. Et à l'intérieur de cet espace, l'établissement public d'aménagement à l'intérieur de cet espace, il y a une zone plus restreinte qui relève de l'OIN, l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, qui est donc la zone sur laquelle spécifiquement l'on cherche à développer l'innovation. Donc il y a ces trois choses différentes, une communauté d'agglomération, une zone d'aménagement et une université. Non mais bon, voilà, je voulais juste rappeler qu'autour du terme Paris-Saclay, il y a plusieurs réalités différentes qui sont superposées, coïncidentes, mais pas entièrement, et que ça contribue aussi à souvent obscurcir le débat entre les intérêts des uns et des autres. Et donc, j'ai indiqué le tracé de la ligne 18 parce qu'on voit bien que sa fonction principale est de relier Orly au nouveau pôle de Corbeville-Moulon et à Satory-Ouest, qui est l'un des nouveaux pôles de développement des industries de défense au sud de Versailles. Cela étant dit, sauf si vous êtes du coin, vous ne connaissez pas le coin, et c'est essentiel à mes yeux de comprendre à quoi ressemble ce territoire, comment il s'organise, pour comprendre ce qu'on a voulu y faire et ce qui s'est passé. On va commencer par la base de la base, à savoir une photo aérienne des années 50. Elle est en noir et blanc, donc on n'y distingue pas grand-chose. J'ai fait figurer les forêts. Et donc ce que les forêts nous montrent, bon, il y a la forêt de Verrières en haut à droite, mais principalement, les forêts, en fait, c'est les coteaux, c'est les pentes. Je disais que le plateau de Saclay, il était à peu près en moyenne à 150-160 mètres d'altitude. Les vallées de l'Yvette au sud et vallée de la Bièvre, au nord-est, elles, le fond de vallée est plutôt à 50 mètres. Donc il y a un dénivelé et c'est extrêmement raide. Les pentes, en particulier entre le bas de la vallée à Orsay et le plateau du Moulon au-dessus, peuvent atteindre 22% sur des chemins. Donc c'est vraiment très raide, c'est pas constructif de toute façon, c'est boisé, d'où le côté charmant de la vallée de l'Yvette et de la vallée de la Bièvre. C'est très très joli avec ces perspectives boisées à deux pas de Paris. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Il y a des petites communes qui étaient foncièrement rurales jusqu'à très longtemps. On est en gros à 30 km de Paris et dans les années 30, le plan d'aménagement de la région parisienne décide que l'agglomération parisienne, le Grand Paris, comme on dit à l'époque, c'est au-delà, jusqu'à 25 km à peu près. 25 km, ça nous mène à Orsay. Et donc, on considère que la région parisienne, au sens zone d'attraction, au sens zone d'aménagement collectif, s'arrête à peu près au milieu de la vallée. Et on est à l'époque en rural ou semi-rural, c'est-à-dire que sur les plateaux, c'est rural, il y a des fermes, il y a des ouvriers agricoles, il y a des petits métiers et on cultive la terre. Dans les vallées, c'est différent parce que c'est dans les petits bourgs que se concentrent les fonctions, le transport des petites industries. Et puis, progressivement, à partir de la fin 19e, début 20e, quand on met en place les premières liaisons ferroviaires, ça devient un espace de peuplement, de lotissement. J'y reviendrai. Donc il y a cet espace, il est également structuré par une série de routes. Des routes qui vont, ceux qui connaissent, il y a la Nationale 20 qui va de Paris à Orléans, vous avez la Nationale qui va de Paris à Chartres, vous avez celle qui va de Paris à Rambouillet, la 306, vous avez Versailles-Montlhéry qui passe à Orsay, et vous avez une autre diagonale qui relie Palaiseau à Trappes, Saint-Quentin-en-Yvelines et Lancourt. Tout ceci se croise aux crises de Saclay. Ce carrefour est, depuis des siècles, est le carrefour des routes du coin. Donc, cette structure routière, elle est en place, améliorée au fil des siècles, elle est en place depuis extrêmement longtemps. Ce qui s'est rajouté à la fin du 19e, début 20e, c'est le réseau ferroviaire. La ligne de Sceaux, actuelle RERB, la voici. À l'époque, elle est allée jusqu'à Limours et puis elle était terminus à Saint-Rémy-les-Chevreuses à partir seulement de la Seconde Guerre. Et puis, ce qu'on appelle la petite ceinture, c'est-à-dire l'actuelle RERC, et puis une troisième ligne qu'on a oubliée, qui était la ligne Paris-Chartres par Gallardon, qui n'a jamais atteint Paris, qui a très mal fonctionné à partir des années 30 avec très peu de trains, puis qui a été désaffectée. En réalité, elle a fonctionné une petite dizaine d'années et pas plus, mais sa plateforme est restée en place. Donc on a une zone rurale qui mais proche de Paris, où très vite on construit des châteaux. La duchesse de Chevreuse dans les Trois Mousquetaires, elle est à Chevreuse. Et Chevreuse, c'est là. On est à Vallée de Chevreuse. Et donc, il y a beaucoup de châteaux, de domaines, de qui en suivent. Tous les châteaux qu'on a en fond de vallée, châteaux de Monget, de Launay, de Buton, Miridon, Breteuil, Dampierre, enfin, ce sont des châteaux qui sont à 15 km de Versailles, 30 km de Paris. Allez, à l'époque royale, il suffit de une petite journée de cheval ou de diligence pour se rendre dans son domaine de campagne. Et à partir du moment où le train relie directement à Paris en une heure, des personnes aisées se font construire une résidence secondaire, mais aussi de plus en plus, des personnes habitant Paris achètent un petit terrain, soit pour leur vieux jour, soit pour se détendre pendant le week-end, enfin le dimanche, et c'est le développement des lotissements dans la vallée. Alors j'ai fait figurer ici, on est en gros en années 40, en brun sombre, vous avez les centres-villes historiques. En brun clair, vous avez les zones de lotissement. Et les lotissements, donc, c'est des pavillons, des petits pavillons construits principalement en fond de vallée, mais aussi, donc le long, on voit très bien la manière dont, le long de la ligne de Sceaux, les lotissements se sont progressivement multipliés à proximité des gares de train. Et puis, déjà à l'époque, on commence à construire un peu sur les plateaux. Le Val d'Albian, du côté de Jouy-en-Josas, ça date des années 30. Monté sur le plateau au-dessus d'Orsay à Mondétour, c'est les années 30. Le lotissement de Belleville à Gif, lui aussi, c'est le début du 20e. Donc, on commence à mordre sur les plateaux agricoles, mais vraiment sur le bord uniquement, pour construire, essentiellement, un champ est vendu, on construit quelques routes, et puis chacun construit sa maison. Et donc ça, c'est on a cette urbanisation qui commence à s'étendre dans le coin à partir du début du 20e. On a aussi, j'ai figuré en orange, sans mettre les noms, des grosses fermes. Il y a des, pour le coup, ceux qui se promènent dans le coin, ça, ce sont des belles grosses fermes carrées qui exploitent, qui font de la grande agriculture sur les plateaux. Et puis, il y a également du maraîchage sur les coteaux, de l'élevage. C'est assez diversifié. Il n'y a pas de thèse sérieuse sur l'histoire agricole du plateau de Saclay. Ça manque, il en faudrait une pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais donc, il y a tout ce réseau de très grosses fermes, la Commanderie, Villeras, Villebois, Courtabœuf, La Vauve, Moulon, etc. Et un dernier facteur qu'il est important de se rappeler, c'est qu'on est quand même dans l'orbite parisienne. Et en particulier après la guerre de 1870, quand les Allemands sont quand même arrivés jusqu'à Paris, on a décidé de construire ce qu'on appelait le réduit fortifié, le réduit de Paris. Donc une série de forts qui sont là pour soutenir la défense contre toute attaque. D'où les gros forts, ici les Moulineaux, pas tout le... qu'il y a autour de Paris à proximité, et puis une ceinture un peu plus large. Et donc on a à Verrières le réduit de Verrières avec un fort principal et puis 5 batteries. À Palaiseau, il y a un gros fort avec ses deux forts de batterie, et puis on a encore un autre, le fort de Villeras sur le plateau. C'est les restes de systèmes défensifs mis en place sous la Troisième République. Et début 20e, on invente l'avion. Et donc, où est-ce qu'on installe des terrains d'aviation ? En dehors de Paris, dans des endroits assez venteux, plutôt en altitude, évidemment, plutôt que dans les vallées. Et donc, on a Vélizy, Villacoublay, qui est construit dès cette époque. Les frères Blériot et d'autres font des essais à Toussul-Noble et aux loges en Josas, aux loges. Donc, c'est aussi un espace où l'aviation s'implante dès le début du 20e. Donc ça, c'est pour dire qu'on est en dehors de Paris, mais on est polarisé par Paris. Voilà. Donc ça, c'est pour la structure. L'autre chose à retenir, alors vous pardonnerez le caractère schématique de mes schémas, c'est que c'est difficile d'accéder au plateau de Saclay. Ça a beau être juste à côté, comme c'est raide et encaissé, il y a vraiment peu de routes d'accès. Pour ceux qui connaissent, ici, c'est la montée à Villers-le-Bâcle. Ça, c'est la Nationale 306. Là, vous avez l'accès par l'actuelle 118. Ici, c'est la rue Gounod. Vous savez qu'elle n'est pas large. Là, vous avez les Joncherettes. Et puis ici, c'est la montée de Pipa les Eaux. Là, on est déjà à Igny. Là, on est déjà, je ne sais plus, c'est les Loges, Jouy-en-Josas. Et puis après, Vaux-Allant et Louis-en-Josas. Bref, en gros, il y a un accès routier tous les kilomètres, voire tous les kilomètres et demi. Et il n'est pas possible d'en rajouter. Il faut, si on n'est pas, pour accéder au plateau, il n'y a que des points d'entrée en moyenne, routiers, réellement routiers pour voiture, que tous les 2 km. Et donc c'est un espace qui est à la fois accessible mais extrêmement enclavé, et la liaison plateau-vallée avec ses 100 mètres de dénivelé et ses pentes à 20% sont un réel enjeu, qui ne se pose pas trop en période agricole, mais qui vont devenir essentiels pour la suite. Alors, ce que j'ai cherché moi à comprendre... Oui.
Vous auriez la gentillesse de prendre le micro. Vous ennuyez.
Elle a son petit micro, en fait.
Alors, en fait, il n'y a pas de micro pour sonoriser la salle.
Comme elle tourne le dos...
Alors, ce que je peux faire, c'est me mettre un peu plus en face, histoire que le son porte un peu plus, et je peux essayer de parler un peu plus fort.
Merci.
Si ça marche comme ça ?
Oui.
Ok. Alors, mais rappelez-moi de remonter le volume, n'hésitez pas, surtout pas. Je pourrais le raconter en détail, parce que j'aime ça, mais je vais plutôt essayer de synthétiser les raisons qui expliquent pourquoi les établissements scientifiques se sont installés dans cet espace après 45. La première raison, c'est la transformation de la science au tournant du siècle. La Seconde Guerre mondiale, elle a entre autres été gagnée grâce à la science. Ce n'est pas seulement la bombe atomique, mais c'est aussi les sulfamides qui permettent donc les antibiotiques, qui permettent de ne pas mourir d'infection sur le champ de bataille. C'est le radar qui permet de voir arriver les avions ennemis. C'est le radar appliqué à la détection avec le sonar. C'est les débuts de l'informatique. La science connaît un tournant décisif dans la manière de fonctionner au tournant du XXe siècle, du milieu du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle le passage à la big science, à la grosse science. Et c'est caractérisé par trois choses. La première, c'est des instruments. Un accélérateur de particules, c'est gros. Un ordinateur, à l'époque, c'est énorme. C'est la taille d'une pièce. Donc les nouveaux équipements pour les sciences de pointe sont très volumineux et demandent de l'espace et ne tiennent pas dans les bâtiments dont on dispose dans les universités, c'est-à-dire dans les centres-villes. Donc il y a une première exigence qui est d'avoir de la place. Je vous ai mis une copie d'écran d'un accélérateur de particules à Saclay en 58. Pour vous donner l'échelle, vous avez des visiteurs en haut à droite et donc on a un anneau qui fait, je ne sais pas, 10 mètres de diamètre probablement. Donc les équipements sont énormes. Deuxième facteur, c'est que ces équipements demandent des techniciens. Et donc la science qui était, c'est caricatural, mais disons qui était faite par le savant, avec une majuscule, sur sa paillasse, avec un ou deux fidèles assistantes restées dans l'oubli quand lui trouvait, et avec un équipement minimaliste dans... C'est désormais révolu. Désormais, on parle de recherche en équipe, avec des professeurs, avec des assistants, avec des doctorants. Je prends du vocabulaire contemporain pour tout ce qu'on va dire, mais ce n'est pas le vocabulaire de l'époque, mais on se comprend. Des techniciens, et donc là où on avait des chercheurs solitaires avec quelques assistants, on passe à des laboratoires fonctionnant avec des équipes. Et ces équipes, il faut les loger quelque part. Il faut de la place, il faut des bureaux, il faut des laboratoires, il faut des ateliers. Et ça aussi, ça demande de la place, ça ne tient plus à l'intérieur. Et le troisième paramètre, c'est qu'on invente des nouvelles branches. L'électronique, l'informatique, la physique théorique, les plastiques, la biologie moléculaire. Le transistor s'est inventé dans les années 50, l'ADN on le découvre dans les années 50. Les plastiques, on les avait découverts avant, mais le grand essor, les céramiques, enfin tous les nouveaux matériaux, ce sont des branches qui se développent, ils s'autonomisent dans les années 40, 50, 60. Et donc, si on construit une nouvelle fac ou si on reconstruit la faculté de sciences comme on veut le faire à Paris, il faut, je cite, prévoir la place des sciences qui n'existent pas encore. Et là aussi, il faut voir grand parce qu'on aura besoin de place. Et toutes ces raisons convergent pour dire, OK, il faut des laboratoires pour les nouvelles branches. Ici, on construit un centre d'études nucléaires, il ne faut pas qu'il fasse 4000 m² au quatrième étage de la Sorbonne, il faut 150 hectares dans un endroit, préférence isolé, bien venteux, si jamais il y avait des émanations qui... et il faut aussi que ce ne soit pas trop isolé. Idéalement, typiquement pour le nucléaire, pour le centre d'études nucléaires qui s'est installé à Saclay, on s'était dit, il y a des gens qui disent qu'il faudrait qu'on se mette au milieu de nulle part, dans l'Arzac, enfin, où, là où s'il y a un problème, l'impact sur, les populations environnantes sera minime. Mais il y a aussi le problème que la science est concentrée sur Paris et que donc il faut être à proximité. Donc on trouve un compromis. Donc la science se transforme et a besoin de place. Et ce besoin de place fait que dès après 1945, spontanément, séparément, mais pour les mêmes raisons, plusieurs laboratoires et instituts vont s'installer dans l'espace Orsay-Saclay. Le centre d'études nucléaires à Saclay, le CNRS achète un domaine à GIF pour faire de la biologie moléculaire. Ça, c'est l'arme des Merisiers, donc ça dépend du CEA. L'INRA crée son centre de recherche zootechnique à Jouy-en-Josas. L'ONERA achète un fort, enfin récupère le fort de Palaiseau, un domaine militaire. Le centre d'essai des moteurs et hélices devenu centre d'essai des propulseurs, ça relève de la DGA, s'installe au fort de Villeras. Pourquoi là? Parce qu'il y a l'aéroport militaire, l'aérodrome militaire de Brétigny-sur-Orge qui fait des essais. Aéronautiques. Et puis, il y a le CNET, c'est des radars, j'en sais pas plus, à mon avis, ça relevait des écoutes et des radars, je ne sais pas ce qu'il y avait, télécommunication. J'ai tellement rien trouvé dessus que je pense que ça relevait des services secrets ou de la recherche militaire. Mais, donc, et puis, la station apicole, elle relève de l'INRA, elle est importante pour quelqu'un qui habite à Bure comme moi, parce que la présence de cette station de recherche sur les abeilles a donné tout un imaginaire autour des abeilles à Bure et a inspiré le logo actuel. Voilà pourquoi je la signale. Elle fait partie de ces établissements. Donc ces établissements arrivent séparément pour les mêmes raisons, à savoir, il y a de la place. On est relié directement à Paris par le train. À l'époque, le terminus de la ligne de Sceaux, RER B, c'est la station Luxembourg. En gros, c'est devant la Sorbonne. Donc c'est absolument idéal. Ou alors on prend le train à Luxembourg, à Austerlitz, et puis c'est l'actuelle petite ceinture et l'INRA Luxembourg pour aller jusqu'à l'Institut national agronomique rue Gay-Lussac. Enfin, tout ceci est facilement accessible. Donc plusieurs établissements s'installent. J'insiste sur le fait qu'ils viennent séparément, pour les mêmes raisons, mais séparément. Frédéric Joliot-Curie est un lien commun entre plusieurs d'entre eux, mais il n'y a pas de stratégie de regroupement. Il y a par contre le fait que c'est joli, il y a de la place, c'est accessible. Comme c'est joli, c'est apaisant et favorable au travail intellectuel, parce que c'est verdoyant et calme. Et puis c'est bien relié. Deuxième facteur, c'est l'explosion des effectifs universitaires. En France, en 1940, il y a 50 000 étudiants. Faire des études, c'est le privilège d'une minorité. Actuellement, Paris-Saclay compte 65 000 étudiants, juste pour avoir une comparaison. Après la guerre, il y a le début d'un essor des recherches, des études universitaires, pour plusieurs raisons. D'une part, les jeunes qui ont fait la guerre ou qui ont été en prison ou qui ont vu leur cursus retardé par le contexte de guerre, il y a un effet de rattrapage ou de compensation ou de la nation leur doit des études puisqu'ils ont passé 4 ans dans des camps de prisonniers, à peu de choses près. Donc il y a ce côté de rattrapage d'une génération. Et puis il y a l'idée qu'une société démocratique moderne diffuse le savoir à tous, donc c'est une démocratisation du savoir. Et puis ensuite, il y aura l'effet du baby-boom. Et donc les effectifs universitaires, littéralement, explosent. J'ai mis les statistiques pour celles que j'ai précises pour la faculté des sciences. On passe de 300 étudiants en 1900 à 20 000 étudiants en 58 et 35 000, presque 35 000 10 ans plus tard. Donc, où les mettre ? La Sorbonne, elle a une taille limitée, et donc reconstruire la fac des sciences, oui, mais où le faire? Je ne vais pas rentrer dans les détails. À l'origine, on veut reconstruire dans le centre de Paris, là où il y a Jussieu, mais c'est la halle au vin, ça appartient aux marchands de vin, ils n'ont aucune envie de partir. Ils ont retrouvé des édits qui dataient de Philippe le Bel pour justifier leur présence à cet endroit-là dans Paris. Pendant ce temps-là, la fac des sciences, ma foi, on est 600 dans les amphis, enfin, c'est, on fait cours jusqu'à 9h du soir, on n'a pas le temps de balayer, un prof s'électrocute en plein cours, et ben, parce que les installations sont vétustes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a construit par-dessus des entrepôts et on cherche un domaine. Au début, on se dit bagneux, ça va, on n'arrive pas à acheter. On trouve un domaine à Orsay, c'est miraculeux. On va pouvoir y mettre des instruments de recherche. Et puis, comme ça piétine toujours à Paris, on dit, bon, bah, on vous avait dit qu'on ne mettrait pas d'étudiants, mais en fait, 10 000 étudiants dans 10 ans, ça vous bat. Et donc, Orsay, à l'origine, ne devait être qu'un centre de recherche, recherche fondamentale en physique, mais dans d'autres domaines. Hein. Il y avait une vingtaine de laboratoires qui devaient y aller, de la biologie, de la géologie, enfin, il y a... campus de recherche, et face à l'impossibilité de construire à Paris à temps pour les dizaines de milliers d'étudiants qui sont en train, qui ont commencé à arriver, alors on décide d'y installer du premier cycle, et donc de l'enseignement, avec l'enseignement complet de la première à la septième année. Mais donc, voilà, ce problème où mettre les étudiants explique que l'on installe la faculté des sciences à Orsay. Et donc, on ouvre la voie vers une déconcentration de l'enseignement en région parisienne. Jusqu'aux années 50, il y a de l'enseignement à Paris, intramuros. Et comme la région parisienne augmente, comme il y a la population augmente, on passe de 40 millions d'habitants en France en 1940 à 55 millions en 75, en 35 ans, plus 15 millions d'habitants. Et c'est le baby-boom. Donc, où caser tous ces jeunes? Le baby-boom commence vers 45, donc les premières promos seront là en 63-65. Les effectifs vont encore augmenter. Où est-ce qu'on va les mettre? On fait une cartographie basique. Il y aura un Paris Sud, un Paris Ouest, un Paris Est, un Paris Nord. Paris Nord, Villetaneuse. Paris Ouest, Nanterre. Paris Est, c'était pas clair. Tremblay en France, bon, ça a pris du temps. Et Paris Sud, eh bien, Orsay. Et puis, on imagine mettre des facs de droit et lettres à Verrières et une fac de pharmacie à, là où elle est allée, à Châtenay-Malabry. Et donc, on a comme ça une cartographie universitaire qui, dès les années 60, sort de Paris pour soulager la Sorbonne intramuros. Troisième paramètre, à part le changement de la science et le besoin de mettre des étudiants, il y a le fait que la région parisienne doit être aménagée. Je vous ai parlé du plan d'aménagement de la région parisienne des années 30. La guerre n'est pas un suspens, mais elle n'interrompt pas. Donc le plan d'aménagement de la région parisienne va être repris ensuite en fonction de l'arrivée de population, de l'exode rural, de beaucoup de paramètres. On a la grande crainte, c'est de voir Paris grandir, enfin la région parisienne grandir n'importe comment, à savoir les gens arrivent, trouvent un terrain, s'installent, et puis devant le fait accompli, il faut après resuturer cet espace, réorganiser, mettre des transports, des services, alors que tout est non structuré. Donc on décide de développer la région parisienne d'une manière organisée, avec comme objectif que tout ne soit pas centré sur Paris. Il faut qu'il y ait Paris, mais que Paris, en tant que ville, soit équilibré par des pôles autour de Paris. Et ça sera les villes nouvelles. Donc il y aura un pôle Est, Marne-la-Vallée, un pôle Évry, Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy, c'est les quatre villes qui sont censées venir rééquilibrer la banlieue, la repolariser pour faire en sorte qu'il y ait de l'activité, au sens tertiaire et secondaire, de l'activité économique, culturelle, enseignement, logement, etc., en banlieue et pas seulement, uniquement sur la région parisienne. Et donc, dans cette prospective, le but est d'aménager la région. C'est une prospective qui est lancée en fait, dès les années 30, je vous l'ai dit, mais qui est repensée et réorganisée dans les années 50. Donc, il y a deux plans, un en 60 et un en 65. Et qu'est-ce que ça signifie pour notre espace Orsay-Saclay? Donc ça, c'est le schéma général. Et donc, il y a ce projet. Donc, ce qui est en marron, c'est les villes nouvelles, en fait. Donc on a le pôle ici qu'on appelle Élancourt, Trappes, Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça ne porte pas encore le Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis le pôle Évry. Et à l'époque, on parle de la ville de Palaiseau à Plaisir, la ville de Plaisir qui se trouve au-delà de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et l'idée, c'est que ce sera une grande agglomération d'environ 400 000 habitants. Et donc le plateau de Saclay, qui est ici, au milieu, le plateau de Saclay sera l'espace agricole, vert, l'espace de loisirs un peu vert, un peu comme la forêt de Verrières, mais en plus varié, au centre de cette agglomération, de manière à avoir une sorte de poumon vert au sein d'une très grande agglomération qui s'étendra dans la vallée de la Bièvre et puis sur la partie sud du plateau de Saclay. Et à l'époque, on projette une urbanisation continue qui irait de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-Bretonneux, et puis on continue pour aller jusqu'au Moulon. On imagine cette grande agglomération. Il n'y a que le milieu qui n'est pas construit à cause du CEA qui oblige avec une zone de restriction non édificandie, parce que, au-delà d'un, on ne peut pas construire à plus d'un kilomètre du CEA. Mais à part ça, il y aura de l'agriculture résiduelle pour aménager le paysage, et puis il y aura le plateau de Saclay sera une île verte au milieu de cette grande nouvelle agglomération. Et c'est ça qui est projeté. Et donc, il y aura donc deux pôles. Il y aura un pôle plutôt industriel côté Saint-Quentin-en-Yvelines, Renault, etc. Et puis, il y aura un pôle, et c'est ça la grande transformation à partir de 60, il y aura un pôle tertiaire supérieur et recherche-développement, enseignement supérieur, centré sur Saclay-Orsay. C'est-à-dire que dans une première phase, les établissements sont venus parce que le territoire était adapté. C'était pas loin, il y avait de la place et c'était joli. Et dans une deuxième phase, constatant qu'il y avait déjà un regroupement spontané d'enseignement supérieur et recherche privé, public, mais aussi privé, attiré par les équipements qui étaient mis en place, et également des industries, des petites industries de pointe, on dirait des start-up maintenant, liées à l'innovation qui se fait autour des grands équipements de recherche de physique, voyant qu'il y a déjà un regroupement spontané, en termes d'aménagement à l'échelle de la région parisienne, l'on décide qu'on va continuer à encourager cette dynamique. Donc si vous voulez implanter de l'enseignement supérieur et recherche, il y a des pôles, il ne faut pas oublier Villetaneuse, il ne faut pas oublier les autres pôles, mais Orsay-Saclay est un endroit où on va encourager, volontariste par l'État, par le district de la région parisienne, l'enseignement supérieur et recherche dès les années 60. Ce qui signifie, 15 ans plus tard, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que qui est venu en plus ? Bien HEC, IHS, les études et hautes études scientifiques, là on est, c'est petit. La fac de sciences a acheté le plateau qui la surplombe, je vais y revenir dans deux minutes. Polytechnique a acheté ses 150 hectares. Et donc, 15 ans plus tard, vous avez plusieurs grandes écoles qui sont venues, puis aussi Supélec et d'autres. Et donc, l'histoire qu'on raconte, c'est parce qu'il y avait de la science, les grandes écoles se sont dit on va venir. Et c'est là qu'il y a le chaînon manquant. Sur lequel je travaille, c'est qu'elles ne sont pas venues alors toutes seules. Le mythe polytechnique voulait avoir sa glorieuse solitude au milieu du champ de betteraves, j'y crois pas. En fait, non. Je vais en reparler dans pas longtemps. Il y avait en fait une stratégie d'aménagement à l'époque qui était le développement d'une cité scientifique comme pilier est de la grande agglomération de Palaiseau à Plaisir. Et c'est là-dedans que les stratégies des grandes écoles, à l'époque, rentrent en jeu. Les grandes écoles, à l'époque, elles forment 2000 étudiants par an. On est à l'époque en 60, on va dire. À une époque où on est donc en 60, De Gaulle est au pouvoir depuis 2 ans et lance des grandes politiques structurantes d'aménagement et de développement industriel. Ça va être le développement des autoroutes, ça va être l'aménagement du Languedoc, ça va être différents grands programmes industriels et aéronautiques. Et en règle générale, l'industrialisation et la modernisation. Pour ça, il y a besoin d'ingénieurs. mais on peut pas, donc les grandes écoles sont sommées d'augmenter la taille de leur promotion pour former suffisamment d'ingénieurs. Mais à côté de ça, il y a aussi l'aménagement du territoire, la data, le rééquilibrage Paris-Province. C'est Jean-François Gravier, Paris est le désert français, qui a beaucoup marqué les aménageurs de l'époque. Et donc, en 60, le gouvernement décide de délocaliser 11 grandes écoles en dehors de Paris et les envoyer en province. Certaines vont le faire. Par exemple, Supaéro va aller à Toulouse pour rejoindre le grand pôle aéronautique qu'on projette d'y faire. Télécom va ouvrir une antenne à Rennes pour le pôle télécommunication et électronique qu'on est en train de développer en Bretagne. Les mines, l'école des mines de Paris, est censée aller à Grenoble-Lyon. L'école des ponts est censée aller, on ne sait pas où, mais en tout cas, pas rester à Paris. Et donc, plusieurs grandes écoles reçoivent l'ordre de quitter Paris. Pas Polytechnique, mais les autres, oui. Autant vous dire qu'ils n'ont aucune envie de déménager et qu'ils vont tout faire pour rester en région parisienne. Et l'une des solutions trouvées va naître dans l'entourage, dans les réseaux polytechniciens. Parce que les grandes écoles, elles ont aussi leurs propres problèmes. Elles ont les mêmes problèmes, en fait, de modernisation qui sont qu'à cette époque-là, elles réalisent que la recherche est essentielle. En 55, le programme de physique qu'on enseigne à Polytechnique, c'est les connaissances scientifiques de 1905. Il n'y a pas de physique postérieure à 1905 dans le programme, le programme n'a pas changé pendant 50 ans. Et donc on réalise qu'il y a un gros retard et que les branches nouvelles, le nucléaire, l'électronique, l'informatique, la chimie, je parlais des plastiques, le pétrole au sens large, toutes ces branches nouvelles doivent, pour que les ingénieurs qu'on forme soient en prise sur les innovations à venir, ils ne peuvent pas se contenter d'un espèce de tronc commun unique qui leur servira pour toute leur carrière. Il faut qu'il y ait une forme de ce qu'on appelle le recyclage à l'époque, de formation continue, pour que les anciens puissent se mettre à jour leurs connaissances dans leur école mère. Il faut que l'enseignement soit transformé, que ce ne soit pas juste des cours magistraux à apprendre par cœur. Il faut développer ce qu'on appelle les petites classes, autrement dit les travaux dirigés. Et pour ça, il faut de la place et des chargés de TP, et donc des bureaux pour les chargés de TP. Il faut développer pour que les industries continuent à financer les grandes écoles et à prendre des stagiaires, il faut que les stagiaires aient une idée des techniques modernes de management, une idée de langue étrangère, une connaissance des dernières innovations. Donc la recherche devient essentielle dans leur cursus. Ça part de l'école des mines et ça irrigue progressivement d'autres grandes écoles au fur et à mesure. Mais tout ça demande de la place. Demande de la place et des personnels. Et là, plus d'élèves, plus de classes, plus d'enseignants, des plateformes technologiques pour que l'on puisse tester en conditions réelles et s'initier à la recherche au cours de ses études. Et tout cela justifie un déménagement, mais pas à n'importe quelle condition. Et l'une des solutions qui est trouvée, Polytechnique qui étouffe dans ses 3 hectares sur la montagne Sainte-Geneviève et qui cherche à reconquérir un rôle plus central avec ses écoles filles, les ponts, les mines, etc., développe un grand projet qui est de se reconstruire sur le plateau de Saclay, mais dans une ville. Parce que être en ville, c'est une source d'épanouissement pour les élèves qui viennent de sorte de prépa, qui ont un régime militaire, et puis il ne faut pas être isolé. Et donc il y a un projet de ville nouvelle qui aurait été installée dans le triangle qui va de Corbeville à Saclay à Palaiseau. Et donc vous auriez eu une ville de 30 000 habitants à peu près, avec plusieurs grandes écoles, Polytechnique, les mines, les ponts, peut-être Télécom, ça n'a jamais été très clair, l'Institut agronomique, AgroParisTech actuel, et qui ensemble serait, donc il y aurait une ville de grandes écoles, une ville universitaire, mais pas exclusivement. Ça c'est un plan de l'époque avec un centre, ce qui est en vert en fait, c'est des espaces verts paysagers de circulation qui seraient reliés par plusieurs autoroutes à Paris et au reste de la région, seraient reliés à Paris par une deuxième structurante, ce qui était prévu à l'époque au niveau du RER. Il y aurait eu une deuxième verticale nord-sud parallèle parallèle au RERB, qui serait parti de Montparnasse, passé par Vanves, Châtenay-Malabry, serait monté sur le plateau de Saclay et serait allé jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines pour relier cette ville nouvelle et être la colonne vertébrale de cette grande agglomération. Et donc, il y aurait eu une ligne de RER, bon, on voit le tracé en pointillé sur cette carte. Et donc, ça, c'est les projets des années 60. Ça, c'est une carte qui date de 72, mais la première genèse de cette carte-là, c'est 67. Le Polytechnique trouve son terrain en 63, la première réunion sur la création d'un pôle d'innovation, recherche, enseignement supérieur, c'est en 64, et ensuite le temps, les financements, etc. Le projet est porté sur plusieurs années, donc ça, c'est la version de 1972, mais le premier projet date de 67. Et donc, il y a une stratégie de... réappropriation de la recherche qui s'est plutôt développée dans les instituts de recherche et dans les universités, de redéfinition du rôle des grandes écoles comme pivot ou intermédiaire, en particulier l'école des mines qui imagine créer une sorte d'écosystème d'innovation depuis la recherche fondamentale jusqu'aux recherches appliquées où les mines seraient au cœur de ces enjeux. Donc il y a tout une réflexion sur l'identité et des grandes écoles et la formation qu'elles doivent dispenser et le rôle qu'elles doivent avoir comme intermédiaire entre la recherche et le monde industriel qui inspire les décideurs de l'époque et fait partie de l'idée de cette vie des grandes écoles sur le plateau de Saclay. Et cette idée, à l'époque, on ne dit pas innovation. L'innovation, c'est un terme qui se diffuse à partir des... sous le mandat de Pompidou comme président. Donc 69-74, il y a un ministère de l'innovation industrielle. Donc le terme d'innovation devient l'un des grands mots des années 70. Les années 60, c'est industrialisation. Les années 70, c'est innovation. Et cette carte, elle date de... Donc, à l'époque, il y a le fantasme de la route 128. Alors, nous, on parle beaucoup de la Silicon Valley. Mais dans les années 60-70, le grand modèle, ce n'est pas la Silicon Valley californienne, c'est la route 128 à Boston. La ville de Boston a une rocade, une autoroute de rocade. Et le long de cette autoroute de rocade se trouve le MIT, d'autres instituts de recherche. Et la logique de développement autour de Boston fait que beaucoup d'établissements privés, publics, de recherche, d'innovation, de transfert technologique, d'industrie de pointe, etc., se sont installés à proximité. Et la route 128 joue physiquement le rôle de lien entre le privé, le public, la recherche, l'industrie, l'appliqué, le théorique, et tout l'écosystème d'innovation qui s'est développé à Boston dans les années 60-70 autour du MIT tient entre autres choses à cette grande rocade, et donc la route 128 est devenue l'expression, quand on parle de la Silicon Valley de nos jours, c'est l'expression de l'époque pour parler des lieux où l'innovation se fait. Et donc il y a à l'époque tout un mouvement autour de l'idée d'innovation et de créer une sorte de route 128 qui irait de Saint-Quentin-en-Yvelines à Évry, autour de ces deux villes nouvelles où des universités ont vocation à terme à s'implanter. Et donc, il y aurait l'arc sud d'innovation qui passerait le long du plateau de Saclay, où la recherche est déjà installée et où on l'encourage davantage. Sauf que là, ça serait une action beaucoup plus volontariste et structurée, et pas seulement un encouragement passif, si vous voulez. Donc ça, cette idée de créer un écosystème d'innovation à Orsay-Saclay, c'est une grande idée des années 70. Et dernier facteur pour comprendre cet espace, c'est les communes, c'est le terrain. Que pensent les communes de l'arrivée de la recherche ? L'installation du CNRS dans le château de Buton, dans la petite commune d'Orsay, de Gif, ça ne change pas grand-chose. C'est quelques centaines de chercheurs, progressivement on monte jusqu'à 1000, je crois. C'est pas très gros, ça ne gêne pas. Et puis le CNRS construit ses propres logements, donc ça ne... Bon, ça urbanise. Le CEA, en 70, au moment où il y a un gros tournant et on dirait du dégraissage maintenant, c'est 10 000 personnes qui travaillent. Et donc, dès les années 50, les communes réalisent que les établissements qui s'implantent vont transformer le paysage et créer des réels problèmes de logement et circulation. Tout est en construction, mais la fac qui disait « oui, on sera 2000 d'ici 20 ans », qui deux ans plus tard dit « alors oui, bah, on sera plutôt 15 000 dans 15 ans », ou le CEN, son étude nucléaire, qui, dont l'ambition est d'avoir 10 000 chercheurs d'ici 15 ans, plus l'exode rural, plus la croissance démographique naturelle du baby-boom, plus les quelques reconstructions de guerre, plus les rapatriés d'Algérie, etc., etc., la pression pour loger devient énorme, et dès les années 50, les communes en sont conscientes. Et la question se pose, ok, mais où est-ce qu'on va mettre les gens? Parce que la vallée, elle est pittoresque, elle est touristique, elle est jolie, est-ce qu'on va recourir ça de bars et de tours, ou est-ce qu'on va mettre les populations ailleurs? Et en fait, dès 57, extrêmement tôt, Bure et Orsay écrivent au ministère de la Construction en disant « on va avoir un problème de logement d'ici 15 ans, il faut anticiper, il faut prévoir pour éviter qu'on se retrouve avec n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On a un plateau au sud qui serait assez adapté. » Et donc le projet des Ulysses, ce n'est pas l'État qui a dit « pas mal comme endroit, je vais y mettre des gens ». C'est venu d'une initiative de Bure et Orsay qui, ont dit, se sont rassemblés et ont proposé à l'État, ont demandé à l'État une aide pour urbaniser cet espace, de manière à avoir sur le plateau nord le CEA, le CNRS, l'extension de la fac, etc., la recherche, et puis plateau sud, on descend, on remonte, 15 minutes de voiture, la cité idéale des chercheurs. À tel point qu'à l'époque, quand ils en discutent, ils disent « faudra quand même faire attention que les gens d'un même labo ne soient pas dans le même bâtiment, parce que sinon, quand même, ils seront toujours entre eux, etc. etc. » Donc, l'impact sur le territoire, c'est une circulation accrue, ça c'est clair, et puis le besoin de construire. J'ai mis cette carte de 72 qui montre l'ensemble de l'espace. Alors… le RERB, ici on le voit, c'est la zone urbanisée. Vous avez les Ulysses, vous avez Courtabœuf, vous avez le centre d'études nucléaires, vous avez le grand projet de ville nouvelle, ici les écoles, ici les logements, Château de la Martinière est là, si vous voulez avoir un repère. Et puis ici le tracé de la 118 telle qu'on la connaît actuellement, qui est toujours là. On aperçoit en pointillé la future ligne de RER qui devait monter sur le plateau, une autoroute qui n'a jamais été construite, et puis la 10 qui devait aller jusqu'à Montparnasse. Et donc on a un espace qui se retrouve transformé par ces projets, en fait. Et du point de vue des communes, dans les années 60, on commence déjà à se poser des questions parce que bon, la construction des Ulysses traîne en longueur. Au lieu de devenir… elle change d'échelle, elle change de nature, ça échappe pas mal aux communes, même si elle va… Il y a une société d'économie mixte, donc elles en font partie, mais le projet devient bien plus gros que ce qu'elle pensait. Et puis, du point de vue des communes, une université en établissement public qui s'implante, ça veut dire des charges en plus. L'eau, l'électricité, le gaz, l'élargissement des réseaux d'assainissement, le ramassage des ordures, etc. Plus de trafic, de personnes, de voitures qui usent les routes, de gens dans les transports, qu'il s'agisse des routes ou des transports en commun. Aucune taxe foncière. Les établissements ne payent aucune taxe aux communes. Donc, l'arrivée de l'université à Orsay, par exemple, littéralement stérilise des terres qui ne peuvent pas rapporter soit en taxe d'habitation, soit en taxe foncière, soit en patente, soit enfin, quels que soient les revenus d'une commune, mais en revanche demande à Orsay de construire en partie à ses frais des écoles, des réfections de routes, les Ulysses et d'autres choses. Et donc il y a Orsay dans les années 60 se dit sinistré par l'éducation nationale, je cite. Le maire a beaucoup aimé son expression, il l'a beaucoup réutilisé. Et donc, progressivement, les communes commencent à se révolter contre les projets. Et en réalité, les projets qui cristallisent les tensions, c'est ce projet de ville nouvelle autour des grandes écoles. Parce que elles sont déjà passées par là. Les arguments, j'y reviendrai, mais elles se retrouvent avec un projet d'État auxquels ne sont pas associées, avec des plans d'aménagement qui se font sur 3 communes à la fois, mais les plans n'indiquent pas comment ça se prolonge sur la commune qui est au nord ou au sud, donc comment ces réseaux vont se relier, comment tel développement va impacter telle autre commune. C'est à cheval sur 2 départements, c'est à cheval sur 2 ou 3 zones de la DDE, donc des trucs entre services qui sont difficiles à coordonner. Le projet de construction de la ville des grandes écoles, c'est 26 intervenants différents à l'époque. Il y a les grandes écoles qui dépendent de ministères différents, la défense pour Polytechnique, l'industrie pour les mines, les transports pour l'école des ponts et chaussées, l'agriculture pour l'Institut national agronomique, télécom, les PTT. Ensuite, vous avez le ministère de l'Intérieur parce qu'il est concerné par des réorganisations, vous avez le ministère de l'Économie parce que c'est lui qui donne les sous, le ministère de l'Éducation nationale parce qu'il est quand même concerné, mais en fait pas tout à fait. Donc c'est extrêmement complexe. L'agence technique et foncière de la région parisienne, le district de la région parisienne, les communes en question, les départements, parce que c'est un seul département, mais désormais, en 65, réforme de département, la Seine-et-Oise est divisée en plusieurs départements, et donc on a désormais les Yvelines et l'Essonne. Donc vous avez une complexité administrative énorme devant lesquelles les communes se retrouvent assez désemparées. La lourdeur de construction des ULIS, l'impact... l'impact de l'arrivée des premiers établissements fait qu'elles vont faire front commun contre ce projet en créant un syndicat intercommunal. Syndicat intercommunal pour l'aménagement Plateau de Saclay, des vallées de l'Yvette et de la Bièvre, le CIB. Donc le syndicat des communes Plateau de Saclay date de 70 et son objectif était d'être un front commun ou interlocuteur unique, comme vous voulez, des communes face à ces gros projets qui tombaient de l'État sans se demander l'impact sur le territoire. Ces projets vont échouer. Pourquoi est-ce qu'ils échouent? Parce qu'on est en 70-72, crise monétaire à partir de 71, choc pétrolier de 73, il n'y a plus les sous. Tout simplement, il y a un problème financier. Deuxièmement, il est extrêmement complexe. Il n'y a pas, d'interlocuteur unique. Réveille-toi. Voilà. Il n'y a pas de porteur de projet unique. Les grands projets volontaristes d'aménagement, c'est les années 60. Mais là, années 70... C'est déjà le rapport Meadows, c'est déjà le cycle de documentaires à la télé qui s'appelle « La France défigurée », où il y a eu qui pointe tous les excès de l'urbanisation, de la bétonisation, etc. C'est déjà après mai 68. Dans le refus de l'autorité ou la contestation d'autorité, il y a aussi la contestation d'une décision d'État au nom du bien public sans se poser la question du terrain et du consentement local. Plusieurs facteurs vont se conjuguer. Et puis, on est après mai 68, donc l'idée de regrouper des étudiants, même si on craint très peu la contestation des grandes écoles, c'est pas vraiment... Quand même, cette idée de faire d'une sorte de monoculture étudiante un peu coupée de la vraie vie ne fait plus recette. C'est plus dans l'air du temps, quelques années près. Il l'aurait fait 5 ans avant, ça aurait pu marcher. Mais on aurait commencé en 67-68, ça aurait pu marcher. Mais 5 ans plus tard, l'époque a changé. Et je ne sais pas l'expliquer mieux, c'est vraiment on parlerait de logiciel maintenant, mais les conditions, les besoins, les personnes ont changé et on n'est plus dans l'optique de construire cette grande ville nouvelle. Mais comme les choses sont engagées pour Polytechnique, Polytechnique va venir toute seule. Et donc l'idée que Polytechnique est venue dans un glorieux isolement volontaire, c'est faux. Et c'est aussi pour ça que Polytechnique a soutenu à fond tous les projets qui ont suivi de reconstituer un environnement parce que les premières années, l'état psychologique des étudiants était catastrophique de passer du quartier latin au champ de betteraves et de colza qui est sur le plateau. Donc ce schéma échouera. Mais donc la résistance des communes a joué son rôle. Et donc, on arrivait à la fin, maintenant c'est promis. Ce qui me frappe beaucoup quand j'étudie mes chères années 50, 60, 70, c'est l'apparition précoce de thèmes qu'on pense être complètement actuels et datés, en gros, avoir 20 ans. La question de la vocation scientifique de l'espace Orsay-Saclay. Alors, il y a les discours de Com, on est d'accord, qui reconstruit depuis toujours, déjà au néolithique. Oui, j'ai des gens depuis le néolithique dans le coin, mais ce n'est pas la question. Donc, il y a les discours de communication et il y a et il y a certaines réalités. Et dans ces réalités, il y a le fait qu'à partir du moment où l'enseignement supérieur et recherche s'y est installé, d'abord spontanément, puis de manière encouragée, alors à un moment donné, il y a un effet boule de neige. L'argent vient à l'argent, la science vient à la science, l'innovation vient aux endroits où il y aura des personnes pour le faire. Et donc cette idée qu'il y a un pôle qui s'est créé date des années 70. On ne parle pas d'excellence à l'époque, mais le thème y est. Quand je suis tombée sur cette note, le 21e siècle français se joue autour du plateau de Saclay, elle date de 70, cette note. C'était extraordinaire. Et le type qui portait ça, c'était un polytechnicien, Barthalon. Il avait un projet de fonds d'innovation Paris-Saclay qui aurait installé à la ferme du Moulon un lieu de... C'était assez génial quand on y pense, à mi-chemin entre un Rotary et un Fab Lab. Donc il y a eu un côté rencontre entre les industriels, les commerciaux, le privé, les intérêts économiques et la recherche. Un lieu de rencontre industrie-recherche, mais aussi un côté Fab Lab pour que les gens du coin, les jeunes du coin, puissent venir essayer du prototypage, essayer ci. Il y aurait eu un mini-golf, des fauteuils en cuir, des expositions, un petit cinéma, enfin, une espèce de lieu culturel mixte pour que la société, le monde universitaire, le monde étudiant et le monde privé, le monde industriel, se rencontrent sur un lieu qui aurait été à la ferme du Moulon. Donc il est mort. Ça s'est arrêté là. Mais voilà, j'ai mis quelques extraits. Années 80, E égale Orsay 2, années 93, un grand projet pour développer un pôle scientifique et technologique, donc développé, structuré. Donc cette idée est présente dès les années 70, par le constat de ce qui se passe sur le terrain. La deuxième chose, c'est que très tôt, la question de donner sens, ou donner corps, ou donner structure à ce cluster, pour parler en vocabulaire contemporain, ce regroupement, cette juxtaposition d'établissements, très tôt, elle se pose. J'en ai mis trois côte à côte. En 76, donc échec des projets d'aménagement. Donc échec définitif, voilà, coup d'arrêt au projet de construction d'une ville nouvelle, il n'y aura que Polytechnique et ça sera très bien. Les différents établissements qu'on avait incités à discuter produisent ensemble, donc ce sont les grandes écoles, la fac, enfin, l'université Paris-Sud, des établissements privés qui existent à l'époque, un centre de formation d'ingénieurs, etc., produisent un livre blanc sur l'aménagement du plateau de Saclay, dont le but est de proposer des pistes concrètes de collaboration, de mutualisation, histoire d'encourager les dialogues, les échanges entre les différents établissements. Là, en 83, vous avez un projet de cité scientifique Île-de-France, Île-de-France Sud, dont l'idée est que tous ceux qui sont là, privés, publics, recherche, innovation, industrie, ont envie de se parler les uns les autres, mais il n'y a pas réellement de structure qui sert de facilitateur. Et donc, il faudrait un truc facilitateur et puis une sorte de lieu un peu central. Et je pense que c'est ça, entre autres, qui inspire la création du Parc Club Université qui a été construit sur le plateau du Moulon. Et puis, bon, voilà, encore un exemple dans les années 90 de aménager cet espace. Et pourquoi aménager ? C'est que les terres ont été achetées. La ferme du Moulon, dès 59, la fac de sciences envisage de l'acheter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acheté dans la vallée, c'est inondable. Ils ne le savaient pas, ils pensaient que c'était résolu, mais c'est inondable. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est très boisé, on ne peut pas construire. C'est très mal relié, c'est complètement enclavé comme domaine. On y accède par des rues résidentielles qui font 5 mètres de large, parce que les châteaux étaient en dehors des villes. Donc on achetait un château avec son domaine, et ben on est en dehors de la ville, et on est en confin, on est derrière les maisons d'habitation. Et donc, dès 59, la faculté des sciences constate, un, on n'a plus de place, alors qu'il faut mettre davantage de labos et davantage d'étudiants. Deux, on est complètement enclavé, il y a deux petites routes ridicule qui traverse Orsay pour y accéder, ça ne marche pas. Et trois, c'est inondable. Si on achetait la ferme du Moulon sur le plateau, on aurait de la place, on aurait un accès routier direct, et puis ça serait plus pratique. Et donc, ça prend 10 ans à acheter, mais en 68, c'est acté, c'est acheté. Pareil, les terrains entre Corbeville et Palaiseau, certains ont été achetés dès 45 par l'agriculture pour être des zones de culture pour l'INRA et pour l'Institut national agronomique, donc des terres d'expérimentation. Mais elles sont achetées dès cette époque-là. Et Polytechnique achète ses propres terres dans les années 60, pareil. Donc ces terres, du moment où elles ont été achetées, elles appartiennent à l'État et à terme, quelque chose y serait fait. Elles seraient construites à un moment donné. Quoi, comment, avec quel modèle, avec quel objectif, avec quelle technologie, selon quelle modalité, je pourrais ressortir le document, mais en 93, le projet issu du district, issu des communes, parle, donc projet d'urbaniser le Moulon et puis la partie Corbeville-Palaiseau, mais avec un catalogue de bonnes pratiques, avec un décalogue sur l'échelle humaine, sur le fait de privilégier les transports en commun et les piétons, sur le fait de ne pas construire des instances séparées, mais au contraire favoriser l'interpénétration, avoir aucun lieu qui appartienne exclusivement à une entité, qu'elle soit privée, public, enseignement, recherche ou autre, pour favoriser le dialogue et l'interpénétration et éviter la juxtaposition de blocos. On est très loin de l'actuel, de ce qui s'est réalisé actuellement. Il projetait par exemple de créer une ligne de bus en site propre, qui existe, mais en la pensant dès le début avec un soubassement suffisamment solide pour que si le besoin s'en faisait sentir, on puisse la transformer facilement en tram. Qui aurait donc suivi cette ligne de bus passant dans les zones stratégiques, mais concrétisée, solidifiée en train. Donc il y a eu beaucoup de projets qui étaient assez intéressants. Mais donc cette idée d'innovation, elle date des années 70, et cette question de comment on coordonne cet espace, comment on lui donne sens et interaction, elle traverse également un sujet récurrent depuis les années 70. Et enfin, je vais m'arrêter là, on pourra passer à une discussion et à un échange. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les arguments sont les mêmes. Dans les années 60, comme dans les années 2010-2020, les arguments pour et les arguments contre sont les mêmes. Les arguments pour de favoriser l'innovation, favoriser l'échange, favoriser la fluidité et l'ouverture des cursus universitaires, favoriser un rapprochement entre les filières, regrouper sur place et la proximité géographique et physique et personnelle. Naturellement, de là, naturellement, naîtront les idées, les échanges, le progrès. Ça, c'est un élément récurrent. Le fait également de disposer d'espace adapté aux missions des établissements, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse du privé, du public, de l'université ou des grandes écoles. Dans les arguments contre, la liste est forcément plus longue parce que pas en termes d'échelle de valeur, mais c'est parce que les interlocuteurs concernés sont plus variés. Dans les arguments des communes, il y a oui, mais vous n'avez pas réfléchi aux liaisons plateau-vallée. Comment peut-on relier le plateau et la vallée si vos transports sont tous focalisés soit sur la route, soit sur des transports massifs ou longs. Vous construisez des quartiers neufs. Mais ça sera à nous ensuite de les faire vivre, et donc à nos frais, de financer des écoles, de financer des services, de financer des mairies annexes, etc. Alors que nos centres-villes auraient besoin d'être revitalisés. À l'époque, on ne dit pas revitalisés, à l'époque, c'est sorti de l'insalubrité, c'est l'eau courante pour tout le monde, tout à l'égout pour tout le monde, l'électricité pour tout le monde. Donc le plateau de la Haquinière maintenant, qui est plutôt un coin plutôt chicos maintenant, enfin, en tout cas, c'est jusqu'en années 50, il n'y a pas l'eau, pas l'électricité. Hein. Donc, comment faudrait déjà résoudre le problème de l'habitat insalubre dans nos vallées et nos communes avant de construire des quartiers un peu chics. Vous allez mettre là-haut des populations qui seront isolées, qui n'auront aucun lien avec les communes elles-mêmes et qui vivront en vase clos séparément de nous. L'argument agricole est présent dès le début, il a toujours été là. Quand on a construit les forts du réduit fortifié de Paris, qu'on a donc exproprié des champs pour construire des forts à Palaiseau, l'agriculteur a protesté en disant « mais vous construisaient sur des terres agricoles. Mais par définition, on construit sur des terres agricoles. Par définition, quand une ville s'étend, les forêts étant difficilement abattables parce qu'elles sont extrêmement protégées, on construit sur des terres agricoles, parce que c'est là que les villes s'étendent. C'est une réflexion qui m'est venue cet après-midi en préparant. Les forêts de Verrières, la forêt de Meudon, le plateau aurait été boisé, je pense qu'il n'aurait pas été construit. Mais parce qu'il était agricole, il relève d'un régime différent du régime des forêts, et donc il est un espace agricole, un espace qui est géré par l'homme en fonction de ses besoins, et donc c'est une réallocation du terrain pour d'autres besoins, tandis qu'une forêt est considérée comme une chose ayant sa légitimité propre. Donc, puis à le côté, bah, si c'est la campagne, c'est vide. Mais, et donc l'idée qu'on sacrifie des terres agricoles, quand Joliot Curie est venu justifier d'acheter 150 hectares pour mettre le CEA, des paysans ont protesté en disant, attendez, c'est le rationnement, on est en 47, vous allez construire sur parmi les meilleures terres. La réponse de Joliot était, bon, j'ai fait le calcul, si ces 150 hectares ne produisent plus, on va priver chaque Français de 2 grains de blé en moyenne, c'est pas ça qui va changer la phase du rationnement, donc voilà. Et l'agriculture a été utilisée, l'agriculture et l'environnement ont été utilisés comme moyen de résistance. Le parc national naturel, le régional naturel de la vallée de Chevreuse, il est instauré, je crois, en 76, et donc il est négocié dans les années qui précèdent. Et on est à l'époque, la France défigurée, etc. C'est aussi pensé comme un moyen de résistance contre les promoteurs, contre une forme d'urbanisation ou contre des projets qui défiguraient visuellement et paysagèrement et puis environnementalement, en certaine mesure, le paysage. Et l'un des premiers gestes, début 75, quand il est acté par la préfecture que non, on renonce à construire la ville autour de Polytechnique, les maires du syndicat intercommunal passe un arrêté qui sanctuarise les terres agricoles pour 15 ans. Et donc, l'utilisation de l'agriculture comme moyen de résistance à l'urbanisation, elle ne date pas des années 2000-2010, elle est déjà sur le terrain dans les années 70. Donc, ces questions de liaison plateau-vallée, les questions de bétonisation, le terme bétonisation, c'est un grand terme des années 70, où est-ce que le béton va s'arrêter? Préservons ce qui reste de verdure et d'espace vert et d'équilibre de vie aux portes de Paris. L'argument qui n'est pas présent et qui est un argument actuel, c'est la dimension qu'on va dire environnementale, biodiversité, réchauffement climatique, on va dire durabilité, le mot n'est pas bien choisi. Mais disons que cette problématique d'artificialisation, de déséquilibre des écosystèmes, toutes ces problématiques-là, elles sont absentes des années 60-70. Le cadre de vie au sens cadre de vie visuel, environnemental, pollution sonore, pollution visuelle par la publicité, ça oui, mais le côté environnemental, artificialisation, bétonisation, etc., ça c'est des problématiques contemporaines dans le cadre des réflexions sur la transition écologique. Donc c'est absent, mais c'est le seul argument que j'ai pas trouvé dans les années 60-70. Je pense que j'ai dépassé. Merci pour votre attention et je propose qu'on passe au débat. Ah, et attendez, je vais juste le reprendre parce que je vous avais préparé une petite comparaison. Ce qui est en marron, c'est l'emprise urbaine en 1945. Ça, c'est actuellement. Je vous le fais en mode clignotage. Ça, c'est nous maintenant. Et le plateau, effectivement, est inconstructible. Le CEN étant ici, toute cette zone, il est interdit de construire autour. Et ensuite, effectivement, il y a les terres agricoles qui résistent. Certaines ont été transformées en golf. Mais voilà, ça, c'est la situation actuelle. Enfin, 2019, à 5 ans près. On prune les espaces de l'OIN. Et en bleu, les établissements de recherche.
Merci beaucoup. S'il y en a qui ne connaissent pas ce territoire en vrai, n'oubliez pas qu'on organise régulièrement des randonnées, des traversées du plateau de Saclay. Il y a des appels qui sont lancés sur la liste du séminaire. Il y en a déjà eu 3 et probablement Il y en a une qui s'annonce pour bientôt, puisqu'il y a eu quelques demandes. Je n'ai pas de date précise, mais si ça vous intéresse, vous pouvez soit vous abonner à la liste du séminaire, soit laisser vos coordonnées quelque part ici. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est retourné dans l'histoire du XXe siècle. On avait eu auparavant, par exemple, plusieurs exposés sur ce sujet-là, dont par exemple un exposé d'Urbex où on a le CNET dont tu as parlé tout à l'heure, ensuite devenu CSF, Thalès, etc.
C'est pas les mêmes.
Voilà.
Ouais, non, mais le CNET et CSF, c'est pas pareil. Hein. Le CNET était dans le château de la Martinière jusqu'aux années 80.
C'est vrai, tu as raison.
Mais qui faisait, c'est le mystère.
Tout à fait. Je me souviens maintenant dans le CNET, dans le château de la Martinière. Effectivement, donc on en a parlé ici avec une toute autre vision, hein, des gens qui ont été se balader dans les ruines du laboratoire de Thalès, qui est maintenant transformé en démonstrateur agro-urbain avec le plan d'investissement d'avenir. C'est en construction actuellement, il y a des tranchées dans cette terre peut-être polluée. Donc, il y a possibilité de visiter, de consulter. Donc, par exemple, il y a un numéro du Chiffon, un journal qui a été présenté ici même avec un dossier sur le plateau de Saclay très orienté militaire. Hein, parce que donc, toi, tu as parlé vraiment de la science, mais la science s'est développée, c'est implicite quand on parle du CEA. Sur ce domaine ici, il y a aussi des applications militaires. L'ONERA, c'était... de la recherche, certes, mais pour des avions et des choses plus ou moins militaires, si j'ai bien compris. Le centre d'essai...
Pas exclusivement. Le centre d'essai des propulseurs, lui, il relève vraiment du militaire. Ouais. Mais l'ONERA, c'est des souffleries, les moteurs à réaction, le comportement face au froid, qu'est-ce qui se passe quand un poulet tombe dedans, un oiseau, quoi. Ouais. Non, c'est toute l'amélioration des turbines, de l'importance, c'est de l'amélioration aéronautique. Ils ont des contrats avec le militaire, mais ils ne sont pas centrés sur le militaire.
Mais c'était pour parler de ce qui avait été, développé ici jusqu'à présent. Il y a eu aussi une réflexion sur le Grand Paris en général, hein, qui a été présentée il y a plus d'un an avec le collectif Échelle Inconnue. Il y a des archives qui traînent sur le site des archives du séminaire, hein, qui est bien planqué, mais qui existe quand même. C'est un vaste sujet qu'on a plus. Donc, on a une brique supplémentaire grâce à ton exposé. J'ai rajouté cette petite touche militaire. Je vais me permettre de poser la première question. C'est la question aussi des pollutions, parce que quand qui dit Joliot-Curie dit usine de production du radium et de. Alors, peut-être à Gif dans la vallée, j'ai une rue du radium où les gens n'ont pas le droit de creuser de caves ou de cultiver leurs légumes, peut-être, je ne sais pas. Il y a soi-disant des fûts de trucs enfouis quelque part dans le lac à côté du Christ de Saclay. Moi, je ne connais que des rumeurs, etc. Est-ce que tu as des sources historiques qui font état de trucs qui ont été enfouis ou de choses qui ont été mis sous le tapis tranquillement comme on faisait pendant les Trente Glorieuses?
Alors, cette histoire de la rue du radium à Gif, oui, en fait, Marie Curie... utilisait ce qu'on appelait ça s'appelait des aiguilles, enfin c'était des tubes remplis d'une matière, radioactive qui était utilisée pour la recherche à Paris. Et l'usine qui fabriquait ça était à Gif, au Clos Rose, à côté du bassin de Coupière, et qui d'ailleurs pour l'instant est inconstructible parce qu'il faut, on ne peut rien y faire parce qu'il reste. Et on est à une époque où, en fait, la radioactivité fait rêver parce que. Et où on ignore complètement les effets des radiations à long terme. Et donc Marie Curie et Irène Joliot-Curie sont décédées de maladies directement liées à leur exposition au rayonnement. Frédéric, non. Mais donc cette histoire, la rue du radium, en fait, c'est que le matériau qui était... Elle faisait des allers-retours entre une maison qui se trouve à Gif et le Clos Rose, et puis ensuite ça prenait le train jusqu'à Paris. Et effectivement, on était très peu attentif, et plusieurs maisons ont été effectivement contaminées par des radiations qui sont au-dessus des normes. Après, les études sont là, mais c'est une pas forcément une volonté de cacher, mais surtout une profonde ignorance. Il y a eu une pièce de théâtre qui a été tenue récemment à propos des ouvrières qui peignaient les aiguilles luminescentes au radium, la peinture au radium, sur les horloges. C'était une super innovation. On voyait les aiguilles la nuit. Et donc, pas besoin d'allumer la lumière pour savoir quelle heure il était. Mais c'était de la peinture radioactive à une époque où on sous-estimait complètement, où les protocoles de sécurité, enfin bref. Et donc, parfois, elles se léchaient les doigts. Enfin bref, donc on a réalisé qu'il y a une mortalité monstrueuse parmi elles. Et progressivement, il a fallu attendre les années... années 40, 50 pour avoir une idée, avec 50 ans de recul en fin de compte, sur de l'impact des radiations. Donc pas mal de un mélange de négligence, d'ignorance, d'aveuglement volontaire, de sous-estimation, c'est compliqué. Sur la question de fûts, il y a effectivement eu, dans les années 60-70, un scandale de fûts dans lequel était en béton dans lequel étaient stockés des déchets, qui étaient stockés du côté du CEA sur un terrain leur appartenant, mais avec des problèmes de ruissellement ou de fûts fondus. J'ai vu passer ça dans les relevés de conseils municipaux. Dans le détail, je ne suis pas spécialiste, mais oui, c'est une problématique. Et quand le CEN s'est installé, les communes avaient demandé et obtenu, comment c'était fait, je ne me prononce pas, mais en tout cas, qu'il y ait tous les 6 mois des tests faits dans les eaux qui descendent du plateau, avec des eaux de ruissellement, qui descendent dans la vallée pour vérifier le taux de radioactivité. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises à ce sujet-là. Et à la fac d'Orsay, la création d'un système de sécurité, mais là c'est au niveau, c'est quoi au niveau vers l'intérieur, de surveillance de l'exposition des personnels a été mis en place dès les années 60 ans.
Bien, ben donc maintenant, pour poser une question, il faut se saisir de ce micro. Alors. Je ne sais pas si...
Question, témoignage, oui, point de vue, contradiction, au contraire.
Des pollutions masquées sur votre campus, des choses qui ont été mises sous le tapis.
Merci. Tout à l'heure, sur un des slides où vous présentiez les implantations de différentes universités, en tout cas de ce qui était prévu, vous présentiez sur Verrières-le-Buisson deux universités de droit qui, à ma connaissance, n'ont jamais vu le jour. C'est le cas ?
Oui, effectivement. Elle devait se trouver sur l'actuelle plaine des Godets, là où il y a le parc de la Noisette. Et donc, le but était de construire, comme on a construit à Nanterre, de construire une fac de lettres et droits, deux facs, décentralisées. Et ça n'a pas marché parce que il fallait exproprier 150 personnes différentes et c'était les résistances sur le terrain. Inspirés par ce qui se passait à Orsay. Ils étaient très en contact. Les résistances sur le terrain étaient énormes et donc les collectifs de propriétaires ont fait que le projet s'est enlisé, n'a jamais vu le jour. Mais pendant quelques années, il était vraiment prévu d'avoir une fac de lettres et une fac de droit à Verrières. Ouais.
C'est très amusant parce que le parc de la Noisette aujourd'hui, c'est un parc. Il n'y a plus d'habitation dessus.
Oui. Villemorin avait des terres de culture et donc Villemorin était basé donc à Massy, mais ces terres de culture pour produire les graines qu'il vendait se trouvaient à Verrières en montant jusqu'à Châtenay-Malabry. Et donc il est possible que les terres qui sont, je pense pas qu'on ait détruit les habitations pour mettre un parc, il est possible que ce soit le reste de ces terres de Villemorin. Faudrait voir sur place.
Et la famille de notre ministre Amélie de Montchalin, elle est réputée être propriétaire aussi de terres agricoles, de la ferme de Villetin, etc., etc. Je sais pas, c'est bon, ok. C'est véridique aussi, okay. Probablement. D'accord, on a la confirmation ici. D'autres questions, témoignages ?
Oui, dans les schémas d'aménagement que vous présentez, en fait, ça s'est toujours limité à des carrés avec quelques couleurs indiquant peut-être le statut de ce carré. Ou est-ce qu'il y a eu des choses un peu plus précises, des débuts de route, des hauteurs de bâtiments, des choses comme ça? Et notamment, est-ce qu'il y a des références à d'autres exemples, hormis la route 128 là, à Boston. Est-ce qu'il y a d'autres références à d'autres aménagements? Bon, je pense notamment à Louvain-la-Neuve qui est concomitant en fait.
Alors, quand on a relancé le projet la Martinière dans les années 70, il y a effectivement eu une mission à Louvain-la-Neuve pour voir comment cette ville nouvelle pouvait inspirer ce qui allait se faire. Donc, ils y ont réfléchi. Faut pas croire, mais ils avaient, entre grandes écoles qui devaient venir ensemble, ils avaient eu des groupes de travail en 72-73 qui ont réfléchi de manière très poussée à l'intégration. Qu'est-ce qu'on mutualisera, les terrains de sport, un grand amphi, ce genre de choses. Et au niveau des enseignements, ils avaient réfléchi de près aux enseignements qui étaient mutualisables. Jusqu'à conclure, bon, l'analyse, l'algèbre linéaire, c'est pas la même chose qu'on fait au pont et à l'X, donc on peut pas mutualiser ce cours. Mais ils sont allés dans des degrés de détail insoupçonnés. Hein. Donc en termes d'aménagement, on n'est jamais passé jusqu'au projet architectural. On est resté à un schéma de structure qui définissait des zones de logement. Il y aurait eu du grand logement collectif, mais pas des tours, plutôt du, j'imagine, 4-5 étages maximum, sachant qu'il y a une altitude maximale du fait de radars, de couloirs aériens, ce genre de choses. À part Polytechnique, bah, dont les plans sont décidés en 66, les autres écoles, ils n'en étaient même pas à avoir préfiguré les services qu'ils voulaient implanter. Hein. Les ponts rêvaient d'une sorte de campus de l'équipement, où sur le même lieu, on aurait la formation initiale des ingénieurs des ponts et chaussées, la formation continue, les bureaux d'études. Ce qui fait que les différentes composantes du milieu des ponts et chaussées, ça serait un campus du génie civil, si vous voulez. Ça, c'était un fantasme dans les milieux des ponts et chaussées, qui ceux qui voulaient cette reconstruction réfléchissaient à ça. Mais c'est ça, un peu. Mais ils sont allés à Marne, effectivement. Et pourquoi ils sont allés à Marne? C'est parce que... Il y a des raisons structurelles. Mais comment ils ont trouvé Marne? Eh bien, il se trouve qu'au début, les ponts sont très volontaires pour venir à Saclay, parce qu'il y aura cette ville, parce qu'ils sont à l'étroit, comme ce n'est pas permis dans le centre de Paris, et puis parce que, après tout, pourquoi pas. Et puis, 2-3 ans plus tard, là, le vent a tourné, et là, ils sont plutôt vent debout contre ça. Mais sauf qu'ils étouffent tellement à devoir ils sont en train d'introduire des options, par exemple. Il n'y a pas de salle pour le faire. Alors, c'est symbolique, mais le directeur décide de renoncer à son logement de fonction à l'école et les 120 mètres carrés sont transformés en petits centres de recherche. Ils en sont là, en fait. Donc, pourquoi pas, mais trouvez-nous une solution, disent-ils à l'État. C'est pas Saclay qu'on aurait choisi, mais trancher et qu'on le fasse et qu'on en finisse, qu'on puisse enfin redéployer notre enseignement tel qu'on veut le faire. Sauf que Saclay, hein, en 1974, ils sont plus très chauds. Et donc la direction, plutôt que prendre de front son ministère de tutelle, organise une AG avec les profs en disant « On a tel problème, vous pouvez y réfléchir. » Donc ce sont les profs qui ont fait un collectif pour aller démarcher différentes villes nouvelles en demandant s'ils avaient un terrain à maximum 500 mètres du futur RER. Dans ce cadre-là, ils ont démarché différentes villes, dont Marne-la-Vallée, qui a répondu « Oui, on serait vraiment pour ». Donc ça, c'est 74. Ensuite, ça s'est concrétisé dans les années 80 puis 90. Mais donc, oui, il y a aussi une dialectique dans ces choix.
Je crois savoir qu'il y avait un projet de téléphérique entre les Ulysses et le plateau. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Qu'est-ce qui a bloqué?
L'argent. Je peux vous répondre un peu plus précisément parce que j'ai vu les archives de ça. En 73, il y a eu un appel à projet. Donc les différentes sociétés de l'époque, Aramis, Urba, enfin bon, tout ça, une dizaine de sociétés ont envoyé des projets. Et l'un des plus ambitieux que j'ai vu, c'était un téléphérique qui aurait relié. Je vais remonter un peu. Hop, si on voit sur cette carte, donc il y aurait une branche qui serait allée jusqu'à Courtabœuf, donc ça aurait relié le centre commercial actuel Intermarché, pour ceux qui connaissent les Ulysses, ça aurait traversé les Ulysses, serait descendu à la gare de Bure-sur-Yvette qui aurait été un petit peu décentrée, ça serait remonté sur le plateau du Moulon, il y aurait une branche pour aller vers le CEA et une branche qui partait vers l'est pour aller jusqu'à Polytechnique, et donc il y aurait eu un grand téléphérique qui aurait desservi toute cette zone de manière à relier, tout relier quoi. Et donc, il y a eu différents projets, mais on est en 73, choc pétrolier. Et donc, à partir de là, les projets sont disproportionnés, sans parler du fait que la ville nouvelle se construisant pas, le besoin semble moins. Et puis, la 118 ayant ouvert, donc créant une liaison routière rapide, le besoin semble plus prioritaire. Je profite de la question pour me faire un petit peu de publicité. J'ai un carnet de recherche sur la plateforme Hypothèse, donc qui s'appelle orsay-saclay.hypothèse au pluriel.org, sur lequel il y a différents billets. En particulier, il y a un billet consacré au téléphérique, d'autres, il y a une quarantaine de billets. Donc, allez-y, il y a de la documentation. La plupart des illustrations qui sont proposées ici, je les ai mises en ligne. Donc voilà, histoire de la cité scientifique Orsay-Saclay. Googlez-moi, vous cherchez, allez sur la plateforme Hypothèse et vous trouverez.
C'est juste un commentaire. À notre époque de téléphonie généralisée, sachons qu'en 1960, pour avoir le téléphone à Châtillon-sous-Bagneux, c'est-à-dire 10 km de Paris, il fallait attendre 3 ans.
Oui. Là, on a du mal à imaginer le changement. Mais et vous avez raison de le souligner, parce que c'est quelque chose que je trouve... C'est pour ça que j'aime les années 50, 60, 70. C'est à cause de ces contrastes. Je vais vous en donner deux exemples. En 54, il y a une enquête d'utilité publique pour l'achat du domaine de Launay par la faculté des sciences pour mettre l'accélérateur linéaire et le synchrocyclotron. Donc une enquête d'utilité publique pour est-ce que vous êtes d'accord auprès des communes pour qu'on installe un centre de recherche. Et on veut donc construire des accélérateurs de particules. Et le décret préfectoral annonçant l'enquête dit que l'enquête sera annoncée par voie d'affichage ainsi que par son de trompe, c'est-à-dire par crieur public, ce qui avait encore des annonces publiques sur le marché. Et donc cette technologie qui date du Moyen-Âge, à savoir d'avoir un crieur public avec un tambour, existait encore. Et moi je trouve ça génial. Personnellement, ces contrastes de modernité absolue et de tradition sont assez fascinants. Mais on sous-estime la situation, le besoin de modernité et de confort de l'époque. En 65, à Paris, le tiers des logements n'a pas de salle de bain. En moyenne. Dans le 16e arrondissement, 85% des logements ont une salle de bain, et dans le 20e, 15% des logements ont une salle de bain. D'accord, on connaît ces décalages-là. Mais n'empêche que le fait d'avoir les toilettes sur le palier, c'est classique. Le fait d'avoir un lavabo commun dans le couloir des chambres de bonne, c'est classique. Le fait d'avoir un lavabo dans sa chambre derrière un paravent ou de faire sa toilette dans l'évier de la cuisine avec un miroir fixé dessus, c'est des photos à la Doineau, mais c'est aussi une réalité de la plupart des logements. Donc ce besoin de rattrapage et ce décalage des niveaux de vie, ça explique aussi pourquoi on a construit des grands ensembles qui au moins avaient une baignoire et l'eau courante, ce qui était fou par rapport aux standards de confort à l'époque. Donc oui, vous faites bien de rappeler ce genre de choses.
Ça c'est la capitale, mais dans les campagnes, l'électricité est arrivée en 1950 et c'était très 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 difficile. Mais en même temps, vous n'avez pas, et pas l'occasion, ça n'était pas le sujet, évoqué la radio et la télévision. Il y a eu trois chaînes à une époque, je ne sais plus laquelle, mais formidable d'ailleurs, d'une grande qualité. Mais voilà, trois chaînes et la radio.
On parlera de Pierre Schaeffer et de l'ORTF, des Shadocks. Ici, on a des connexions.
Oui, moi j'avais. Alors avant qu'on rentre dans la partie informelle et que. Parce que
on
je vois que tu as la.
Discuter, passé,
j'avais peut-être une question pour conclure, mais en fait, déjà j'avais une. Je voulais vous remercier pour l'intervention. Deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup pensé à Sophie Houdard, en fait, et à son étude sur le CERN. Qu'elle a fait, qui s'appelle Les Incommensurables, qui a été publié. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup rappelé aussi, cette approche du territoire assez sensible, puis de comprendre comment en fait une infrastructure va drainer en fait tout un changement. Et il y a une deuxième chose, il y a quelque chose qui m'a interpellé en fait dans votre intervention, c'est qu'à un moment vous êtes arrivé, vous dites oui c'est étonnant parce qu'en fait il y a une similitude en fait des arguments qui reviennent régulièrement en fait sur ces projets de construction, puis ces refus des communes en fait de y aller parce que ça a un coût en fait, et là je le dis vraiment pas forcément que en termes financiers, hein. Mais là, ce que j'aimerais en fait peut-être justement poser la question, c'est moi ce qui m'interroge, c'est aussi le moment où le langage est différent. Et en fait, justement, les nouveaux arguments qui sont développés, même si évidemment c'est pas les mêmes projets qui sont construits, mais on a bien vu là qu'il y avait quand même beaucoup de résistance récemment autour justement des constructions de lignes de métro qui sont en train d'arriver. Et donc, ce que j'aimerais bien savoir, c'est le renouvellement justement des arguments et ce que vous avez pu voir passer dans le débat public, en fait, où justement il y a un changement subtil et dans le langage, mais aussi dans l'argumentation. Et notamment vis-à-vis justement de ces grands projets là qui sont, et voilà, c'est des choses qui m'intéressent notamment parce que ici on a fait un peu l'écho justement des luttes qui se sont passées sur place, et voilà, juste pour peut-être avoir ce comparatif en fait, parce que vous arrivez avec toute cette histoire, et peut-être pour avoir justement un petit peu une perspective en fait sur les arguments qui ont pu être développés là récemment à l'aune justement de cette histoire.
Vaste question. Non, mais non, pas du tout. Il y a dans les vocabulaires évoluent. Bon, ça, c'est une chose. Il y a différents types de refus. Il y a le refus NIMBY, not in my backyard, pas dans mon. C'est très bien de se construire des centres de recyclage, mais pas chez nous. Donc il y a un côté, parfois, on va le dire très franchement, passéiste, hein, au sens il faut que les choses ne changent pas du tout, que l'on observe les questions de défense du paysage. Surinterprétez pas ce que je dis. Je veux dire, je suis en train de dire qu'il faudrait abattre les forêts, c'est pas du tout ça. Mais il y a un côté de parfois très très conservateur et peu aventuriste ou peu expérimentateur dans l'évolution visuelle paysagère. Dans certains cas, GIF, il avait été envisagé qu'une autoroute circulaire traverse GIF en remontant la vallée de la Mérantaise, et que la vallée de la Mérantaise, qui est franchement très très joli, les points les plus pittoresques deviennent en fait une autoroute à 2x2 voies pour pouvoir relier en fait Évry à Versailles. Hein. GIF a été vent debout contre ça, ça a fonctionné. Là, on parle d'un vrai projet défigurant. Ils ont aussi protesté contre le fait qu'il y ait des pylônes électriques qui traversent la vallée et qui remontent. Franchement, on ne les voit plus. On n'y pense plus, mais à l'époque, d'avoir ces grands piliers qui font 20 mètres de haut ou 15 mètres, enfin, je ne sais pas trop les dimensions, qui traversent, c'est effectivement une saignée soudaine dans la forêt, ça traverse. Et oui, maintenant, pour nous, c'est rentré. Donc parfois, il y a des formes de frilosité comme ça. Mais pour revenir au cas de GIF, là, par contre, GIF est le cas d'une commune qui a essayé de penser l'avenir à 40 ans à l'avance. Le maire en place, indépendamment de ce qu'on pense de lui ou de ses options politiques ou quoi que ce soit, s'est posé la question. GIF se transforme, le but c'est qu'on ait quelque chose qui soit encore vivable en l'an 2000, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il a pensé l'action de sa Trimbac, il a pensé son action sur le long terme. Donc il y a ces côtés de frilosité ou de peur de l'inconnu, mon Dieu, des étudiants, ils vont faire du bruit, parfois il y a ça. Dans les éléments récurrents, il y a la déconnexion du sommet et du bas. la déconnexion entre l'échelle locale et l'échelle générale. Non pas que ce soit un refus de l'intérêt public, mais que les choses soient imposées de l'extérieur, sans concertation, sans adaptation, sans regarder le terrain. Moi, quand je regarde ces cartes des années 60-70, je me demande s'ils sont venus sur place. Où est la logistique du dernier kilomètre ? Est-ce qu'ils sont, ils pensent les choses comme des espèces de flux où on ne se pose pas la question, mais une fois qu'on a garé sa voiture, s'il y a encore 10 minutes pour aller jusqu'à tel endroit, alors ces 10 minutes deviennent, par exemple, à titre personnel, le trajet choisi pour la ligne 18, indépendamment qu'elle soit sur pilotis, qu'elle soit au sol ou autre, ils feront la peine le quartier du Moulon, et donc les habitations sont à 10 minutes du métro, ce qui est trop loin. Et l'hôpital aussi, et le quartier Camille Claudel. Donc, la manière. Il y a cette question de est-ce que le terrain a été consulté, a été pris en compte dans ces logistiques de proximité et ces difficultés de proximité. Ça transparaît à travers les discours, surtout l'idée d'une déconnexion, en fait, hein, d'être mis à l'écart, d'être concerné directement et d'être mis à l'écart du processus décisionnaire. Sachant que dans les années 50, il y a une mystique de l'action portée par l'État qui, après mai 68, forcément se délite. Hein. Je rajouterais que... moi, j'ai regardé des documents, j'en ai vu vraiment beaucoup. Je pense à ce chiffre en centaines de milliers de pages, mais c'est quand même centré sur les années 50, 60, 70. Et il y a un chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est 75-2005. Parce qu'on continue à construire, il continue à avoir un petit mitage du plateau, et des résidences, des lotissements, etc. Et le monde change, et les problématiques changent, autoroute de l'information, comme on est dans les années 90, enfin, les plans Université 2000, l'Université d'aménagement et territoire, donc on crée l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines et d'Evry, donc il manque ce chaînon manquant. La période depuis 2005 est très étudiée en études de management, de sciences politiques, etc., d'aménagement du territoire et autres. Je m'occupe des années des 30 glorieuses, et ben il manque 30 ans. Il faudrait une thèse, là aussi, qui regarderait en détail, avec cette même approche d'aller chercher. Techniquement, c'est un peu une HDR que je suis en train de faire, mais j'aurais bien un financement aussi. Donc, mais voilà, il faudrait étudier comment on passe d'un monde à l'autre, en fait. Comment on passe des années 70 au monde des années 2000, pour justement voir l'évolution de ces discours et l'évolution de ces arguments.
C'est plus une remarque, mais bon, moi je suis à Télécom depuis 93, et en fait j'aurais tendance à dire que chez Nomo encore, il y a toujours eu du bas bruit, en fait. C'est-à-dire que moi, depuis 93, j'entends que Télécom finira un jour à Saclay. Voilà. Donc en fait, il y a toujours eu en tête que les écoles d'application de Polytechnique finiraient autour de Polytechnique à un horizon fini, inconnu, qui arrivait plus vite que ce qu'on pensait. Mais voilà, il y a quand même, je pense, entre 80 et 2000, alors peut-être pas les ponts parce qu'ils sont au la Marne de la Vallée, mais chez toutes les autres grandes écoles d'application de l'IX, cette idée que l'IX un jour donnera l'ordre. Mmh. Voilà.
Ce que je trouve paradoxal, parce que l'idée de l'école mère et ses filles, les écoles d'application, Polytechnique ayant développé ses propres cursus, avant on faisait Polytechnique et si on voulait devenir réellement ingénieur, il fallait faire une école d'application derrière, puisqu'elle a développé ses propres cursus et que les écoles ont pris plus que largement leur autonomie en ayant leur propre cursus indépendance et les deuxièmes concours et autres, les différentes filières d'admission, ce lien organique, j'avoue que j'ai toujours du mal à le comprendre de l'intérieur. Peut-être il faut en être pour comprendre cette mystique des écoles d'application. Et oui, comprendre comment cette idée est restée. Alors, petite boutade, Supélec était dans le centre de Paris et pour les mêmes raisons de place, etc. Dans les années 60, il décide de déménager à Saclay, sur le plateau. On ne sait pas encore dans quel bout, enfin bon, déménager. Et il y a un éditorial du directeur de l'école qui dit... Non, mais Saclay, ça sera sûrement un paradis. Mais c'est comme le vrai paradis. On n'est pas pressé d'y aller. Donc,
c'est pas... Exactement. C'est super. Bravo. Alors, bravo.